phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You bellow where your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Who you? What are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, il est 19h passé de 6 minutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce soir on va parler de Linky et de son homologue Gaspard, et oui vous notez le jeu de mots, vous allez voir. Ensuite, on va revenir sur des familles de prisonniers politiques basques qui sont comparues devant le tribunal à Lyon. On va revenir sur une évasion à Nantes, sur les condamnations après l'agression d'un barguet à Lille pendant les manifs anti-mariage homo. Ensuite, on aura une chronique numérique. Et ensuite, on passera à Faut que ça se sache. Alors, et ben après le Linky, c'est au tour de Gaspard de s'inviter dans nos foyers. Enfin bon, quand je dis s'inviter, vous allez voir, on n'aura pas trop le choix, mais... Alors, pour rappel, le Linky, c'est le nouveau compteur de RDF qui envoie tout un tas d'informations en temps réel à ERDF. Pour, en gros, leur permettre, soi-disant, de mieux connaître l'habitude de consommation des usagers, ce qui leur permet un peu de réguler leur parc nucléaire, tout ça. Sauf que ça pose quand même plusieurs problèmes de vie privée, car avec ce boîtier, ERDF est en mesure de connaître beaucoup plus que votre simple consommation. En gros, il sait ce qui est branché ou pas chez vous. Il sait si vous êtes chez vous ou pas, parce que ça, en gros, il arrive à savoir en fonction des consommations si vous avez allumé la lumière et tout. Et théoriquement, il serait même capable de savoir quelle chaîne de télévision ou quel film vous regardez.
Et par extension, quel site internet vous visitez grâce à la consommation en fonction des noirs et des blancs de l'écran.
C'est ça, parce que sur un écran, la couleur blanche consomme beaucoup plus que la couleur noire, ce qui fait que chaque film ou chaque site internet a une espèce de signature numérique, là, électrique pour le coup, et du coup on peut analyser ce genre de trucs. Ça veut pas dire qu'ils le font pour de vrai, hein. Mais juste théoriquement ça fait un truc, ce truc-là qui est possible. Et du coup, EDF, qu'est-ce qu'ils font pour nous vendre ce Linky, pour nous l'imposer, mais pour qu'on soit content de l'avoir. En gros, il dit que c'est hyper pratique pour nous, parce que si on part en vacances au sport d'hiver, et bien, il vous suffit d'appeler EDF pour que la veille de votre retour prévu à la maison, il vous rallume vos chauffages à distance.
C'est bien parce qu'au moins ils assument de s'adresser à une catégorie de population, ouais, uniquement les gens qui partent au sport d'hiver.
Bah ouais, parce qu'au début j'allais chercher un exemple avec l'été, mais au final, ah si, ça vont pas allumer ta clim si t'as la clim chez toi, mais c'est pareil, ça concerne encore moins de personnes. Mais ça, attention, parce que c'est quand même un service que va proposer EDF, et c'est bien sûr ça va être un service payant, ça va pas être un service qu'ils vont dire, ah si vous voulez on peut vous faire ça pour vous rendre service quoi.
Mais parce que le Linky même, est-ce que ça rajoute pas quelque chose dans l'abonnement, le fait d'avoir un Linky?
Si si, bien sûr, oui, ça c'est... alors déjà on n'a pas le choix, dans le Rhône on était une région test, mais on avait le choix au départ de refuser l'installation parce que c'était une région test, du coup voilà. Mais maintenant c'est comme c'est généralisé, s'il y a des gens a priori, je veux pas dire de conneries, hein, peut-être renseignez-vous, si vous refusez absolument d'avoir un Linky, peut-être c'est possible par des moyens ou par un moyen ou par un autre. Mais a priori, il n'y a pas moyen de le refuser. Et en plus, ça crée une hausse au niveau de l'abonnement. Parce que ça coûte la peau du cul ce truc-là, et du coup, il faut le financer, quoi. Mais du coup, ça c'était pour le Linky. Mais là, ben, c'est plus notre ami Linky, c'est Gaspard. Bon, c'est vrai.
Il s'appelle vraiment Gaspard.
Oui, avec Gaspard. Alors voilà, voilà pour le jeu de mots, c'est Gazpar. Voilà.
Mais
pour...
ils sont drôles.
Mais voilà. Non, non, mais bon. En gros, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Ce nouveau dispositif va permettre à GRDF, c'est ceux qui ont, ceux qui sont censés s'occuper de l'acheminement du gaz, c'est pas ceux qui vous facturent votre gaz, mais voilà, c'est ceux qui amènent le gaz jusqu'à chez vous. Ça va leur permettre de connaître votre consommation de gaz en temps réel. Bon, là, pour le coup, ce sera la seule information que Gaspard va pouvoir récolter. Ce nouveau compteur va ressembler à ceux actuels, mais il aura un petit boîtier jaune sur la façade avant qui transmettra par onde radio votre conso GDF. Alors, moi, mon interprétation, c'est que si ils peuvent juste relever comme information votre consommation en temps réel, c'est que là, quand même, on parle de gaz. Du coup, c'est... je veux dire, ils pouvaient pas mettre en place tout un système électrique un peu important à côté de conduite de gaz, parce que on sait que ça fait pas bon ménage les deux ensemble. Du coup, comme ça pouvait, je pense, passer que par onde radio, a priori, ça pouvait pas être des informations hyper lourdes. Le principal intérêt pour GDF, c'est de savoir ce qui se passe, un peu comme le Linky, sur son réseau en temps réel, et surtout quand même de ne plus avoir d'agents qui viennent relever les compteurs deux fois par an. Vous savez, deux fois par an chez vous, on vous demande d'afficher sur votre porte ou d'accueillir bien gentiment un releveur de vos compteurs. Entre fin 2015 et début 2016, 24 communes de... alors je vais citer les régions qui sont concernées. Haute-Normandie, Bretagne, Île-de-France et bien sûr Rhône-Alpes, en gros il y a de grandes chances qu'il y ait Lyon dedans, seront les communes test du compteur Gaspard. Du coup, entre fin 2015 et début 2016, vous allez voir vous pointer ce nouveau compteur jaune chez vous. Là, c'est précisé, l'usager ne peut pas refuser l'installation et évidemment, comme pour le Linky, le prix de l'abonnement va augmenter. Mais la commission de régulation de l'énergie, c'est la CRE, nous rassure tout de suite avec un meilleur suivi en temps réel, ce qui va, en gros, nous on va pouvoir avoir accès sur internet à notre relevé en temps réel.
Par exemple, si vous avez la flemme d'aller voir dans la cuisine, ouais, si quelqu'un est en train de préparer à manger, vous pourrez savoir que quelqu'un est en train de consommer du gaz dans la cuisine, donc probablement quelqu'un s'occupe de votre repas. C'est important.
Oui, c'est ça. Si vous avez la flemme d'aller voir votre compteur aussi. Mais du coup quand même, cette commission qui a l'air très sérieuse, et je pense que les gens sont grassement payés à l'intérieur, elle nous dit que ce suivi en temps réel, du coup pour nous, ça va nous permettre d'économiser 1,5%. C'est-à-dire qu'on va dire, ouh là là, on consomme un peu trop, attention, on va baisser un peu le feu sous la cocotte. Donc, mais que ces 1,5% de baisse ne seront pas une économie brute pour nous, parce que ça permettra de compenser le surcoût de 2 à 3 euros par an de cette saloperie de compteur. Nous ça nous coûte plus cher, mais par contre c'est la société Atos World Grid qui a remporté le juteau marché pour la fabrication de ces compteurs. Autant dire qu'eux ils vont se faire plein de pognon. Et voilà, bah tout ça c'est quand même un peu une mauvaise nouvelle de plus pour les gens qui essayent de pirater leur compteur d'énergie.
Bah, on peut quand même rappeler, pour ceux qui seraient prêts à sauter par la fenêtre parce qu'ils pourront plus bloquer ni leur compteur GDF ni leur compteur EDF, que le compteur Linky avait été piraté puisqu'il y a un lecteur de clé USB sur ces compteurs et que des Allemands, il me semble, avaient réussi à le pirater. Donc pour l'instant ça n'a pas atteint tout le monde, mais quand ces compteurs se généraliseront, on a bon espoir de pouvoir trouver facilement en ligne de quoi les pirater.
C'est ça, en tout cas, dès qu'on aura une méthode pour essayer de contourner un peu ce nouveau compteur de GDF. On imagine avec les ondes radio, peut-être qu'il y a moyen de foutre un espèce de brouilleur ou une saloperie à côté pour que ça se transmette plus. Enfin, en tout cas, on fera des tests et si on est au courant de trucs, on vous transmettra le message. Alors là, ça s'était passé, on revient sur des familles de prisonniers qui sont passées devant le tribunal là. C'est sur des faits qui sont passés le 26 octobre dernier. Trois Basques s'étaient fait arrêter parce qu'ils étaient venus rendre visite à un ami incarcéré à la prison de Corba avec un t-shirt où était écrit, et là je lis ce qu'il y avait écrit, la maison d'arrêt de Lyon-Corba, deux points, pas d'activité, un régime qui enferme les détenus 21h dans la journée dans la cellule, pas de conversation avec les responsables, la répression est la langue unique de la pénitentiaire, abus de pouvoir, traite inhumaine, agression. Ce n'est pas assez comme punition l'enfermement pénitentiaire. Il pose la question sur leur t-shirt. 28 morts à Lyon-Corba, chacun sa responsabilité, Alain Pompigne, tortionnaire. Alors Alain Pompigne, c'est le directeur de la prison de Lyon-Corba et il n'avait pas du tout apprécié ce qu'il avait pris comme des menaces et une insulte. Bon, pourquoi hein, quand même ? C'est vrai qu'il est quand même à la tête de la prison la plus mortelle de France, parce que qui connaît ça, 28 morts, c'est celle qui bat des records absolus. Pourtant, c'était la prison, c'était vendu comme la prison ultra moderne, nouvelle génération, tout ça, tout ça. Les trois personnes sont passées en procès lundi. On ne sait pas encore ce qu'ils ont pris, mais ils ont été jugés pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Les trois Basques, eux, de leur côté, estiment qu'il ne s'agissait pas d'une insulte ni d'une menace, mais voulaient juste faire connaître les conditions de détention à Corba et éventuellement faire passer un petit message à Alain Pompigne.
En même temps, ce qui est intéressant, c'est que personne n'a porté plainte pour diffamation. Peut-être qu'il n'a pas prouvé que c'est fou.
C'est ça, peut-être qu'il reconnaît le terme tortionnaire. Ensuite, un détenu s'évade de la prison de Nantes. Alors, on reste dans le milieu carcéral. C'est pendant son transfert vers l'hôpital qu'il a réussi à se faire la malle. C'est sous la menace d'une lame de rasoir qu'il avait soigneusement cachée. Il a réussi à passer plusieurs fouilles pour aller jusqu'à l'hôpital. Il a attaqué les surveillants, les blessant avec la lame. Alors, il y en a eu un à la jambe, l'un au visage, tout ça là. Et a ensuite réussi à leur fausser compagnie et à s'échapper sur un scooter avec l'aide d'un complice. Il était libérable en 2025. On lui souhaite bon vent. Condamnation après l'agression d'un bar gay à Lille. Les trois nazillons qui avaient agressé des employés d'un bar gay à Lille le 17 avril dernier. Alors on rappelle, le 17 avril, pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, c'était en plein pendant les manifs homophobes contre le mariage gay. Vous vous souvenez un peu de ce climat délétère qui régnait en France. Du coup, les trois personnes ont été condamnées à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal, truc un peu dingue quand même, n'a pas retenu le caractère homophobe de l'agression, malgré le fait que plusieurs insultes à caractère homophobe ont été prononcées pendant l'agression. Et c'est surtout là-dessus que les assos et les plaignants sont un peu dégoûtés qu'en gros, dans un contexte comme le climat qu'il y avait en France le 17 avril, le tribunal se dise que non, après tout, cette agression était juste une agression classique et n'avait aucun caractère homophobe.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est encore la NSA qui nous fait rire, parce qu'après avoir surveillé le monde entier, le Huffington Post publie aujourd'hui un document top secret de la NSA qui leur a été, qui est un document daté d'octobre 2012 qui leur a été fourni par Edward Snowden. Et c'est un document qui identifie six cibles musulmanes et qui essaye de les discréditer par une surveillance d'échanges électroniques. Donc en gros, la NSA recherche des vulnérabilités qu'ils pourraient exploiter pour cibler des musulmans. Qui sont les principales vulnérabilités qu'ils recherchent? C'est la visite de sites pornographiques, l'usage d'un langage ouvertement sexuel avec de jeunes filles inexpérimentées, l'utilisation de fonds pour leurs dépenses privées, facturer des sommes importantes pour leurs interventions, ou utiliser des sources peu fiables pour leurs déclarations publiques. Donc déjà, pour trois de ces six personnes surveillées qui sont... pour trois des six personnes qui sont dans ce dossier, il y a 1% de leurs contacts, donc 7 contacts, qui étaient signalés comme étant affiliés à un groupe extrémiste ou un groupe militant pakistanais. Le document affirme que les trois autres cibles ont davantage de contacts en lien avec des groupes extrémistes, mais sans jamais affirmer qu'ils sont eux-mêmes impliqués ou même sans prouver quoi que ce soit. Donc voilà, on voit que c'est quand même des énormes terroristes, mais bon, sans aucune preuve. Donc voilà. On ne comprend pas vraiment pourquoi ils les ont surveillés et pourquoi ils ont cherché ces vulnérabilités. La seule chose que leur reproche la NSA de façon certaine, c'est que ces individus ont poussé les gens à se radicaliser avec des idées controversées diffusées sur YouTube, Facebook et autres réseaux sociaux. Donc voilà. Pour ces raisons-là, la NSA exploite une surveillance électronique qui pourrait révéler publiquement des activités sexuelles sur Internet et nuire à leur crédibilité sur la toile. Ils nous disent, ces failles potentielles pourraient être exploitées de manière encore plus efficace si elles sont combinées à des faiblesses de caractère ou de crédibilité du message, afin de modifier la perception que l'on a de l'expéditeur ainsi que de ses partisans. Donc par exemple, une personne qui diffuse que les non-musulmans sont une menace envers l'islam, et de l'autre côté, ils veulent prouver que cette personne se rend coupable de promiscuité sexuelle sur Internet. Une autre cible qui est un citoyen étranger qui est décrit par la NSA comme étant un universitaire respecté, a affirmé qu'un djihad offensif était justifié. Parmi les points faibles relevés sur lui par la NSA, encore une fois, la promiscuité sexuelle sur Internet, et cette personne publie des articles sans vérifier ses sources. Donc voilà, on voit bien que c'est du terrorisme à grande échelle, quoi. C'est vraiment pathétique, et surtout, on ne sait pas pour l'instant, ce document il a été fourni par Edward Snowden, mais on ignore complètement quand et comment il devait être diffusé au départ. Est-ce qu'ils pouvaient soit simplement décider de l'envoyer aux cibles visées pour faire pression, pour leur demander d'arrêter de diffuser leurs idées, comme le FBI avait pu le faire il y a assez longtemps maintenant, mais le FBI était connu pour faire pression sur des personnalités politiques en montant des dossiers, notamment sur leur vie sexuelle, notamment à l'époque sur leur homosexualité, et du coup à leur donner uniquement à eux ces dossiers, et à faire pression pour obtenir plus de liberté au niveau du FBI. Mais ce que pourrait choisir la NSA cette fois-ci, ce serait sinon de les diffuser publiquement pour tenter de décrédibiliser les cibles auprès de leurs auditeurs. Donc voilà, j'imagine qu'on ne saura jamais ce qu'ils comptaient vraiment en faire, puisque maintenant que ça a été diffusé par le Huffington Post, à part justifier et expliquer qu'ils ne voient absolument pas le problème, que moralement ils comprennent pas ce qu'on leur reproche, la NSA encore une fois. Et donc bon, ce qui est un peu malheureux, c'est que les journalistes ont surtout insisté sur le fait que si on commençait comme ça, alors ça pourrait être des vrais Américains qui pourraient être visés.
Wow.
Des militants politiques, des militants droits de l'homiste. Et la NSA explique que non, absolument pas, hein, elle voit pas le rapport. Que là, c'est uniquement sur des personnes musulmanes, parce que oui, il se trouve que quand même plusieurs de ces six personnes diffusent l'idée que le 11 septembre avait été commandité par le gouvernement américain. Et ça passe pas. Donc voilà, ils les ciblent eux, mais ils voient pas en quoi moralement ce serait répréhensible, et il semblerait, pour l'instant en tout cas, qu'ils assument ce dossier. Voilà, à suivre, si on arrive à en savoir plus tard, on vous tiendra au courant.
Alors, en bref, dimanche dernier passait sur Zone Interdite un reportage sur le voyage de clandestins entre la Libye et Paris. Et on apprend cette semaine, on a appris dans la semaine que par Télérama, que les trois Camerounais qui avaient fait le voyage depuis la Libye ont porté plainte contre M6 pour aide directe et indirecte à l'entrée et au séjour régulier, soumission à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, risque causé à autrui, omission de porter secours et escroquerie. Alors, en gros, l'affaire, c'est que donc M6 est allé chercher en, l'année dernière, autour de décembre, trois personnes en Libye. Ils ont demandé à leurs contacts de leur trouver trois personnes francophones et de confiance. Il leur a été présenté trois personnes qui se trouvaient avoir une vie en Libye, s'être installées là-bas et avoir finalement abandonné l'idée de partir vers Paris. Ces trois personnes, les plaignants, accusent M6 et donc l'équipe de Tony Comiti, qui est producteur du reportage, de les avoir fortement incités à reprendre la route en direction de Paris. Tellement fortement insisté qu'une des trois personnes venait de s'acheter un salon de coiffure et l'a revendu, et qu'une autre personne, bon, apparemment, a dû revendre plusieurs milliers d'euros de matériel qu'il possédait en Libye. Donc voilà. Pour l'instant, bah, la plainte a été déposée et le parquet a décidé d'instruire l'affaire.
Alors, on a tous entendu parler du tireur qui a terrorisé Paris pendant quelques jours. Qu'on a fini par apprendre donc qu'il était relié à l'affaire Rémy Maupin de 1914. Voilà. Dans la journée du lundi 18 novembre, donc quelques heures seulement après les tirs à Libération, la page Wikipédia de l'affaire Rémy Maupin, justement, qui oscille habituellement entre 70 et 80 visites par jour, a été lue pas moins de 590 fois durant la journée de lundi. Coïncidence, je ne pense pas. Je n'ai pas d'explication. Voilà, c'est juste comme ça.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All you call is a diamond fella. All your little ways are a comedy of errors. You better let your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Who you? What are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre. Pour le moment, tu es à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place. Je dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors, comme d'habitude, dans la rubrique Il faut que ça sache, on va parler de l'Italie et là c'est plus pour faire un bref résumé sur tout ce qui s'est passé dans les CIE. Alors, je le rappelle, les CIE c'est l'équivalent des centres de rétention administratifs, mais italiens. Voilà, je me retrouve dans mes notes. Donc sur les 13 centres que compte l'Italie, 7 sont complètement fermés. Et donc si vous faites le calcul, il en reste plus que 6. Mais sur les 6, on peut pas dire qu'ils se portent très bien. S'il y en a quasiment aucun, je crois, qui est ouvert complètement. Alors, à Milan, par exemple, restructuré il y a moins de 3 mois. Avec notamment cette restructuration, de nombreux travaux dans le but d'empêcher les révoltes avec du matériel qui était cloué ou bétonné au sol, des matelas ignifugés, c'est-à-dire qu'ils prennent pas feu, enfin plein de trucs comme ça. Et ben le centre est quasiment détruit, il ne reste plus que 28 places à l'intérieur. À Turin, le centre est à moitié détruit, une section entière est fermée. Les 5 autres, donc du coup le centre il compte 6 sections, les 5 autres sont plus ou moins endommagés, il ne reste plus que 98 places. À Bari, le CIE est à moitié détruit, il reste encore malheureusement 112 places à l'intérieur, mais quand même du beau boulot a été fait. À Caltanissetta, Il ne reste plus que 70 places. Un des trois pavillons est complètement fermé. Et ce mois-ci, il y a eu au moins 3 tentatives d'évasion et plusieurs affrontements avec les flics. Et à Trapani Milo, donc le centre de rétention qui a accueilli les révoltés du centre de rétention de Milan, dont on vous a parlé la semaine dernière. Alors lui, il a plutôt la réputation de... Vous savez, il y a un peu des révoltes, mais surtout c'est le centre de rétention où il y a plein d'évasions. D'ailleurs, il a le record du nombre d'évasions dans ce centre en Italie. Les flics ont tout essayé en allant jusqu'à couper les lacets des retenus. Mais rien n'y fait, ce centre est une vraie passoire malgré les 600 000 euros qu'a injecté les pouvoirs publics. Encore des rites plein d'évasions ont eu lieu ce mois-ci. Je sais pas si c'est pas une personne sur deux ou sur quatre là qui arrive à se barrer. Du coup, effectivement, les gens ils disent bon, on va pas trop foutre le bordel. Juste, on va partir quoi. Voilà. Bah, en tout cas, quand même, autant cette rubrique, on venait à dire que c'est beau ce qui se passe en Italie, que ouais, tous les centres quand même commencent à partir un peu en fumée. Et je vous avoue, on commence à croire au fait que tous les centres de rétention d'Italie partent en fumée.
Ça sache.
Et une nouvelle un peu moins réjouissante pour finir cette chronique. On vous en avait parlé le 1er novembre dernier. Deux personnes avaient réussi à s'évader du centre de rétention d'Hendaye. C'est au Pays Basque. Malheureusement, une des deux personnes s'est fait retrouver et a été condamnée à un mois de prison ferme. Ça s'est passé jeudi. Et ben, on espère qu'elle va pas trop manger et on souhaite bon vent à l'autre personne qui a toujours pas été retrouvée.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Vous donner une petite mise à jour sur les Basques qui sont passés en procès lundi.
Excusez-moi. Alors, on a appris en fait cet après-midi que les Basques avaient été relaxés, pardon. Donc en fait, selon les témoignages, l'avocat de la défense en fait aurait plaidé. Donc c'est-à-dire qu'il était accusés d'injures publiques, c'est ça ?
C'est ça, ouais, par rapport à leur t-shirt, par rapport au message qu'il y a sur leur t-shirt.
Et donc, en fait, l'avocat a plaidé le fait que ça ne pouvait pas être une injure publique parce que c'était un écrit. C'était écrit sur un t-shirt, donc c'était à la vue de tous. Donc, en gros, ils ont. L'accusation avait mal qualifié le délit. Ce qui fait que l'avocat n'a pas pu finir sa plaidoirie et que le juge a. À regret du prononcer la relaxe.
Ah, à regret pour le juge, un peu pour nous.
C'est possible qu'il y ait à nouveau un procès plus tard, que ce soit requalifié.
Je crois qu'on peut pas passer deux fois pour un même.
Si, quand t'as mal qualifié.
Quand c'est mal qualifié. Alors c'est possible que ce soit. Non, je crois pas devant. Enfin bon, on n'en sait rien. Je suis pas. Peut-être si, non mais peut-être t'as raison, j'en sais rien.
Et dans les comme ça, vu qu'on en est sur les dernières dépêches comme ça qui tombent de partout dans le studio, il y a aussi quand même vous avez sûrement entendu parler aujourd'hui du fameux parachute doré qu'a eu le directeur de Peugeot Citroën qui devait être de 20 millions d'euros. Alors quand même, Peugeot Citroën doit fermer l'usine d'Aulnay. Devant tout ce battage médiatique, il a dit bon ok, je pensais pas que ça allait faire autant de bruit, mais mes petits 20 millions, il a dit comme ça, bon je les prends pas.
Wow.
Ouais.
Non, il a même pas dit ça, il a dit il a jamais été question de 20 millions d'euros, il était question que je touche 300 000 euros par an.
Jusqu'à sa mort.
Oui, bah oui, ah, oui. De retraite. Mais qu'en fait ces 20 millions c'était une provision sur je ne sais plus combien d'années, mais ce qui correspondait pas du tout en termes de calcul, mais en fait il a fallu provisionner beaucoup plus parce qu'il est trop taxé. Et donc c'est d'où le fait qu'on lui a filé 20 millions d'euros.
Ah, en compensation d'une taxe comme ça sur les gros revenus.
Mais ouais. Ah non, c'est pas ça que je voulais pousser comme bouton. Eh bien, il est donc 19h32, nous allons bientôt nous quitter.
La météo. Ouais, on va faire une petite météo, comme vous l'avez remarqué... comme avec nos camarades qui toussent dans le studio et qui sont en train de contaminer de leur grippe tout le studio de Radio Canu. Et ben c'est l'hiver, ça on a bien pu le voir, hein. Et les températures vont légèrement remonter. Ce sera pas demain, mais demain on a grand beau, du soleil avec moins 3 degrés le matin et les températures monteront jusqu'à 3 degrés l'après-midi. Vendredi, le soleil se couvre et comme bah voilà, on rentre dans la saison où soit on a le soleil et des températures en négatif, soit on a un ciel couvert, mais ce qui nous permet de maintenir un peu notre chaleur. Bon là, c'est pas la folie non plus. On aura 1 degré le matin et 5 degrés l'après-midi. Samedi, on verra pas beaucoup le soleil, la pluie fera son apparition, on aura des températures qui iront de 2 degrés le matin à 6 degrés l'après-midi, et dimanche on devrait avoir une petite amélioration.
Écoutez, restez à l'écoute, puisque maintenant, dans moins d'une demi-heure, vous devriez avoir l'émission Idées Noires, l'émission de la CGA. Et on va vous laisser avec un petit peu de musique pendant cette moins d'une demi-heure.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.